Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23. Vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble et c'est un bonheur jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, Perico Légas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. Avec vous, bien sûr, dans un instant pour répondre à cette question pour ou contre l'abaissement des droits de succession. On vous attend bien sûr au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera d'argent de poche. Combien faut-il donner à nos enfants et est-ce qu'il faut donner d'ailleurs? Stéphane répondra à toutes nos questions. À 14h, 10% des Français en couple font chambre à part. Est-ce que c'est la bonne solution pour être heureux à deux? On attend bien sûr vos témoignages, vos retours d'expérience, tiens, si vous faites chambre à part, justement. Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous. Amélie Rosic qui tentera d'aider Johan, un chauffeur VTC qui s'est fait arnaquer par une entreprise de location de voitures. Et puis on terminera avec les immanquables. Et il y a beaucoup d'infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Martin.
On va notamment parler d'essence. C'est compliqué de faire le plein dans les stations Total. On vous explique pourquoi tout à l'heure.
Et l'affaire Adrien Quatemin,
c'est bien. RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite à l'amendement du jour. C'est celui d'Aurore Berger, la députée et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui propose d'alléger les droits de succession. Cette mesure faisait partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Il se monte à combien ces droits, Martin ?
Alors déjà, il faut savoir que si vous héritez de vos parents, vous avez le droit à un abattement de 100 000 euros. Donc si vous touchez moins de 100 000 euros, vous n'aurez aucun droit de succession à payer. Au-delà de 100 000 euros, le montant de ces droits de succession dépend de la somme qu'on vous transmet. En gros, si on vous transmet 115 000 euros, vous aurez des droits de succession à payer sur 15 000 euros. Voilà. Jusque-là, si vous êtes bon en maths, tout va bien. Le taux d'imposition, lui, est progressif. Il passe de 5% si le montant taxable est de moins de 8 072 euros, c'est précis. 45% si vous touchez plus d'1 805 677 euros.
C'est précis aussi.
L'amendement déposé par Aurore Berger veut alléger tout ça. Il prévoit de supprimer les droits de succession pour toute donation en dessous de 150 000 euros. Un abattement de 100 000 euros serait aussi mis en place pour les transmissions au sein des familles recomposées. Des allègements promis par Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. Mais pas sûr que cet amendement soit retenu. En tout cas, pas tout de suite. Ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, disait sur RMC que des engagements seront pris sur ce sujet, mais que ça ne serait pas adapté dès maintenant dans le budget.
Alors, pour ou contre l'allègement des droits de succession, Thierry Moreau, est-ce que ce serait une bonne idée ?
Moi, je suis contre. Déjà, à titre perso, le principe même de l'héritage me choque. Donc, moi, je cramerais tout avant de mourir. Ce qui ne m'empêche pas d'aider mes enfants non vivants, il n'y a pas de souci, autant que je peux. Mais je pense qu'il ne faut rien léguer à ses enfants. Je suis partisan de tout dépenser de son vivant. On n'emporte pas l'argent dans la tombe. Ça, c'est ma position de perso. Après, sur les droits de succession, je pense qu'il y a déjà un abattement sur 100 000 euros. Il faut savoir que 87% des héritages aujourd'hui sont de moins de 100 000 euros et 66% de moins de 30 000 euros. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui qu'une très, très grande majorité de la population échappe aux droits de succession. Pourquoi augmenter à 150 000 euros? Je pense qu'il vaut mieux s'intégrer, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, aux familles recomposées où quelquefois il y a des problématiques très complexes parce que la première femme hérite et les enfants suivants sont désavantagés, etc. Je pense que ça, il y a une vraie complexité sur laquelle il faudrait faire un peu le ménage. Augmenter à 150 000 euros, je vois pas beaucoup l'intérêt.
Bah, et surtout, si, c'est 50 000 euros de plus, oui.
Oui, enfin, moi, j'alourdirais.
Pareil, laitier, hein.
J'alourdirais.
Ah oui.
Beaucoup sur les très hautes successions.
Même ceux qui ont travaillé, qui ont créé leur entreprise, qui ont créé des emplois, etc.
Les très hautes successions.
C'est quand même un deuxième impôt. C'est-à-dire qu'en fait, on t'impose sur un truc sur lequel tu as déjà été imposé, quand même.
Les sociologues expliquent qu'aujourd'hui, la principale source d'inégalité en France, elle vient de l'héritage. Elle vient, en fait, de notre naissance.
Mais ces gens-là ont aussi payé beaucoup d'impôts, hein.
Oui, ok. Voilà.
Payons des impôts sur des impôts.
Ça, voilà.
J'achète une maison, je paye des droits de mutation, les droits de notaire, je paye de la TVA, je l'ameuble, je paye de la TVA sur tout ce que je mets dedans.
Je paye de la taxe foncière.
Je suis exonéré à 65% de taxe d'habitation jusqu'à l'année prochaine. Je paye encore une part de taxe d'habitation, etc. Et le jour où je décède, mes héritiers, eh bien, ils vont encore plus payer. Ils vont payer sur ce que j'ai économisé toute ma vie. Et puis, c'est toujours le syndrome, je suis désolé. Moi, je suis contre cette mesure, sauf pour les très riches. Ah ben c'est toujours sauf.
Qu'est-ce qu'un très riche?
C'est celui qui a un patrimoine supérieur au mien. Donc voilà.
C'est une grande
Mélenchon disait à partir de 12 millions, je prends tout.
Ben oui, parce que lui, il avait un patrimoine de 4 millions.
Non mais
il était tranquille.
J'ai pas dit tout prendre d'abord. Je pense que quand on est à plusieurs dizaines de millions d'euros, oui, on peut prendre.
Je veux revenir sur ce qui a en fait.
Je vois pas pourquoi.
Il y a le problème des droits de succession, il y a le problème de l'annonce par la présidente du groupe majoritaire avec la guerre qui se déclare au sein de son propre groupe. Et je trouve bizarre l'argument que vous nous avez donné de dire « Ah oui, mais on le fera, mais plus tard !» Je rappelle juste, il faut qu'ils fassent attention, les grands communicants, que c'est l'argument inverse qui pousse à faire la réforme des retraites avant la fin de l'année.
Absolument.
C'était dans mon programme, je vais le faire. Alors ça, c'était dans le programme, je vais le faire. Ça, c'est dans le programme, je vais pas le faire. On va finir par plus s'y reconnaître. Moi, je pense qu'elle a du courage, Aurore Berger, de dire « On l'a promis aux gens ». Ça va toucher beaucoup plus les classes moyennes parce que les très gros patrimoines, je veux dire, ils ont tous les conseillers fiscaux de la terre pour pas payer et au mieux ils feront une donation de deux ou trois toiles de mètre et puis ils payeront pas d'impôts. C'est pas eux que ça touche. C'est aussi des gens qui dont les parents ont acheté à vil prix un appartement il y a 40 ans dans le centre de Paris, qui le jour où vont le vendre, ils ont trimé toute leur vie pour l'aménager, l'entretenir, etc. Le jour où vont le vendre, il y aura une telle plus-value qu'il va rien rester parce que le patrimoine sera trop gros. Moi, je suis désolé. Je pense que c'est aussi une récompense de ceux qui, toute leur vie, ont essayé de monter dans l'ascenseur social et qui veulent le transmettre à leurs enfants.
Et toi, Thierry, toi, tu as décidé de tout dépenser et c'est ton droit, mais t'as des gens aussi qui n'ont pas envie de tout dépenser, qui ont juste envie de transmettre à leurs enfants.
Et ces gens-là,
des fois, ils ne peuvent pas. Parce que les droits de succession sont trop élevés. Bah, ça ne va pas.
T'as encore le droit de décider où va aller ton argent.
Pardon.
Je précise juste que ce n'est pas pour les gens qui, effectivement, ont un appartement à Paris. Cela, pour moi, ce n'est pas cela qu'il faut taxer.
Je rappelle, j'en ai pas.
Très, très hauts revenus.
Mais les très hauts revenus, ils sont 20. Donc,
par exemple, je pense que quand Laurent Fabius a fait sortir les œuvres d'art de l'impôt sur les grandes fortunes, c'était une bêtise.
Non, mais non. Je n'aime pas Laurent Fabius. Ça n'est pas vrai. C'est typiquement des mesures démagogiques.
Parce que toute sa famille était dans l'Antiquité.
Non, Avant de faire ça, on mettait ces œuvres d'art à l'abri.
Les Égyptiens sont antisémites et les Juifs sont antiquaires. C'était la blague de Raymond DeVos. Je vais calmer le jeu.
Perico Légas, est-ce que pour vous, ça doit être une priorité du gouvernement d'alléger les droits de succession déjà. Les Français sont pour, majoritairement.
Je tiens à dire, malgré l'état de colère dans lequel je suis aujourd'hui sur d'autres sujets, que la législation française en termes d'héritage et la fiscalité, c'est pas la plus injuste d'Europe. C'est un thème qui est très préoccupant pour la classe politique et pour la société qui a été beaucoup abordée.
Pour les gens aussi.
Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des taxations, la fiscalité. Alors, il y a encore des failles. Effectivement, il y a des grosses fortunes qui, par compétences juridiques, arrivent à contourner optimisation des SCI, des donations à l'étranger. Voilà. Non, moi, ce qui me préoccupe le plus, le petit patrimoine familial, il est relativement respecté. Je précise, Jérôme, que la résidence principale n'a pas de plus-value. C'est la
non, 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 ce n'est pas la plus-value.
Mais c'est le montant
net de la succession qui est énorme.
Bon, alors, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut dire l'héritage, c'est le vol. Chaque génération doit repartir à zéro. Non. Il y a un patrimoine familial qui est transmis par des gens qui sont, aux 80. Faut pas non plus que les enfants aient tout de suite la cuillère en argent dans la bouche. Faut quand même qu'ils aient. Moi, mon problème, c'est le petit capitalisme professionnel, les petites sociétés, les familles qui ont créé une PME.
Ouais,
vraiment, avec toute la famille, qui transmettent à leurs enfants, qui vont perpétuer. Alors, il y a toujours le cas où le successeur est pas bon. Mais enfin, on a ce patrimoine économique, qui est le fleuron économique de la France, qui est notre force, qui est un trésor. Et là, la fiscalité est très injuste, parce qu'on pénalise l'héritier qui doit être le successeur et qui doit pérenniser l'entreprise qui marche bien. Eh bien, on lui met des bâtons dans les roues, ce qui fait que ces boîtes-là, aujourd'hui, sont rachetées par des voyous étrangers, ou pas des voyous, peu importe, mais ça peut même partir à des capitalistes chinois, alors que c'était bien en France et que ça constituait le socle économique de la France. Là, je pense que Mme Berger, qui n'a jamais eu de choses très intelligentes, elle pourrait s'intéresser. Ben oui, c'est la Rousseau de la droite.
La Rousseau, c'est une chanteuse.
Sur d'autres paramètres.
Ça n'a rien à voir.
Mais voilà, enfin en tout cas, voilà. Donc il y a effectivement une précision à porter. Voilà, le capitalisme familial, la transmission pour préserver ce trésor économique.
Martin, vous lui apportez une petite précision.
Oui, on peut comparer aussi par rapport à ce qui se fait en Europe. La France est l'un des pays européens qui pratiquent les abattements les plus faibles d'Europe. Quand on compare par exemple avec l'Allemagne, il y a des abattements qui peuvent monter jusqu'à 500 000 euros. En Italie, ça peut monter jusqu'à 1 million d'euros d'abattement pour les conjoints et pour le conjoint et les enfants, 100 000 euros pour les frères et sœurs. Au Royaume-Uni, c'est un abattement systématique de 325 000 livres, quel que soit le lien entre l'héritier et le défunt. Et tout ça, ça fait effectivement que dans les recettes d'État, les recettes issues de cet impôt sur les successions, ça représente 1% en gros des recettes fiscales de l'État.
En plus.
Et c'est beaucoup plus que dans les autres pays.
Alors, on est avec Jean-Philippe Delsol, c'est notre invité sur ce débat. Il est avocat fiscaliste, président de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Merci Jean-Philippe Delsol d'être avec
Bonjour.
Nous.
Bonjour.
Et Jean-Philippe Delsol, est-ce que ce serait une bonne chose de baisser les droits de succession ?
Je le pense. Je partage assez volontiers ce qui a été dit en faveur de cette baisse par plusieurs des intervenants. Globalement, c'est vrai que les droits de succession, peu de gens les payent. Il a été dit 87%, ça dépend des années. C'est, ils ont de 80 à 90% qui en sont exonérés. Mais ils en sont exonérés, et on oublie de le dire, parce que beaucoup de parents ont fait préalablement des donations tout au long de leur vie pour profiter justement des abattements. Et donc, en réalité, on complique la tâche des parents. Et je pense qu'augmenter les abattements sur des montants qui restent globalement, sinon tout à fait modestes, raisonnables, de 100 à 150 000 euros, c'est faciliter la transmission. Et la transmission, c'est très important pour les parents. Les parents travaillent pour leurs enfants. Je trouve ça plutôt sain. Heureusement, c'est une vraie motivation. Et tous le disent. Donc, en fait, je crois que aider les parents à transmettre, c'est en soi une bonne chose et ça participe à la paix des familles. Je vais ajouter à ce qu'a dit le dernier intervenant
Péricoligas.
Sur le fait que beaucoup de pays pratiquent des abattements très supérieurs. Mais de plus en plus de pays abandonnent les droits de succession parce qu'ils se rendent compte que les droits de succession, ça vient en plus de beaucoup d'impôts qui ont déjà été payés.
Et surtout chez nous.
Ça,
et chez c'est ce nous, que je disais tout à l'heure.
Et chez eux avant qu'ils les aient abandonnés. Et ça nuit, en fait, à la fluidité des patrimoines. Alors, il y a, par exemple, moi, je vais en citer quelques-uns parmi beaucoup d'autres, mais depuis 20 ans, le Portugal, l'Autriche, le Canada, la Suède, il y a 15 ans, a abandonné les droits de succession. Et, en fait, ces pays s'en sortent plutôt bien. Ils ont, avec ces abandons, permis de tranquilliser la fiscalité d'une certaine manière.
Oui, de redynamiser aussi l'économie, parce que une fois que quand vous touchez un héritage, a priori, vous n'allez pas le mettre en banque, bah vous allez en profiter peut-être pour acheter un petit bien ou alors changer de maison, acheter des meubles, etc. Et donc ça profitera de toute façon à l'économie, parce que vous allez payer de la TVA.
Et de préserver un patrimoine national.
Je vais juste ajouter qu'en fait, vous avez parfaitement raison, c'est fait pour aider les enfants. Et s'il y a un problème de grosse fortune et d'imposition des grosses fortunes, deux choses. D'abord, à ce niveau-là, 100 ou 150 000 euros, c'est pas le problème.
Non, ils s'en foutent.
Et pour ces gens-là, de toute façon, en France, ils sont déjà, il faut le dire, parmi les plus imposés du monde. La France, à cet égard, quant aux héritages sur les gros patrimoines, fait partie des trois pays du monde qui les taxent le plus.
Et c'est bien de le rappeler, Jean-Philippe Delsol. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur ce sujet. Vous avez des messages, Martin, puis après, on prendra Franck qui nous a appelé au 32-16.
Ismaël, notamment, sur Direct Studio, qui prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on vient de dire. Il trouve, lui, que le fait de taxer les droits de succession permet de corriger l'inégalité qui consiste à permettre à une personne de partir avec un avantage dans la vie. En effet, c'est profondément injuste car ça génère une inégalité sociale dès la naissance.
Donc, voilà pour ça,
nous dit Ismaël. Donc, tout le monde nivelle par le bas.
C'est ça. On a qu'à tout enlever.
Mais si je peux me permettre, c'est pas une inégalité au niveau de la naissance, parce que dans 99% des cas, sauf accident, en fait, l'héritage, maintenant, vous le touchez quand vous-même, vous atteignez 55, 60 ans et que vos parents, ils ont 85, 90 ans. Donc, c'est toute votre vie, vous pouvez pas bénéficier d'aucun héritage. C'est pas corriger une inégalité
sauf que les sociologues expliquent que la principale source d'inégalité en France, elle est l'inégalité de naissance et notamment.
C'est quand même rare aujourd'hui que, bien sûr, que ça arrive que tes parents décèdent quand t'as 20 ans, mais c'est pas la majorité. Donc ton héritage, tu le touches effectivement à 50 ans, ta vie elle est faite. Alors oui, bien sûr, t'as bénéficié peut-être d'un bel appart à Paris, etc. pendant ta vie, mais ça n'a rien à voir avec l'héritage. Sinon, ce qu'on a qu'à faire, c'est taxer aussi le travail de tout le monde et comme ça, il y aura plus de beaux appartements, il y aura plus de vie, tout le monde vivra dans le même truc.
En fait, tu dis que tu en fais quoi?
Personne.
Allez, on abolit l'héritage. Tu donnes ça à la puissance publique?
Ah non, tu donnes ça à l'État. Et pour faire quoi?
Dis-moi ce que. Finis ta phrase.
Je suis d'accord avec l'intervenant. 150, ça ne changera pas grand-chose.
Je pense que pour les très grosses fortunes...
Si, pour les classes moyennes, ça changera quelque chose.
Ah non, mais, et pour ceux qui n'ont pas d'héritier direct, enfant ou conjoint, s'ils veulent faire hériter un membre de leur famille, un neveu, une nièce, etc., ça coûte une fortune.
Mais oui, mais à 50%, c'est pas normal. Tu peux même pas choisir à qui tu donnes, c'est quand même dingue.
Non, mais je veux savoir où ça va.
Ce que dit notre intervenant, je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui n'ont tout simplement pas de patrimoine à transmettre. C'est pas parce qu'ils ont fait des donations au cours de leur vie. Ça, c'est les classes moyennes supérieures qui font ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand leurs parents décèdent, eh ben, il y a quelquefois des dettes et quelquefois des tout petits patrimoines.
Je suis d'accord.
Beaucoup de gens.
Et tu le donnes à qui? Alors, attends. Imagine, donc, il y a un héritage, quelqu'un qui a 10 millions d'euros de patrimoine. Donc, toi, tu dis, il faut taxer énormément. Ça va à qui, ces taxes?
Alors, moi, 10 millions, pour moi, c'est pas ça le curseur.
20 millions.
Tu redistribues à qui? Là où tu veux prélever, à qui tu le redistribues?
Ben, je taxerai plus, ben, ça rentre dans la caisse de l'État.
Ah, bah, super. Et puis, on voit à quel point l'État gère bien. Donc, ça, c'est formidable.
C'est une autre problématique. L'argent public est mal dépensé en France. Je suis le premier à le dire.
Alors laisse l'héritage pour que les gens consomment.
C'est-à-dire que tu dilapides le patrimoine national.
Non, parce que je suis d'accord avec le capitalisme, il ne devrait pas y avoir les entreprises.
On va prendre Franck qui va nous départager sur ce sujet. Franck qui nous appelle de Wascal dans le Nord. Bonjour Franck.
Bonjour.
Et Franck, alors vous, je crois que vous êtes en pleine succession en plus.
Malheureusement, oui, je suis en pleine. D'abord, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Salut Franck.
J'ai écouté l'émission tous les midis pendant l'heure du repas.
Non, c'est gentil.
Ça se voit.
Vous faites quoi dans la vie, Franck?
Bah, je suis électricien.
D'accord.
Je suis électricien dans le BTP, quoi. Hein. Donc, je suis en pleine dent. Et je trouve ça très injuste.
Alors, expliquez-nous, Franck, votre situation.
Alors, voilà, j'ai perdu mon papa il y a 8 ans maintenant. Maman, il y a 2 mois. Enfin, en mois de mai, 3 mois maintenant.
D'accord.
Donc, je suis en pleine succession. Malheureusement, je suis fils unique. Mmh. Alors là, j'en prends plein la tête. Mes parents étaient commerçants. Boucher-charcutier. Ils ont travaillé toute leur vie. Mmh. Je les ai vus, on habitait au-dessus du commerce. Hein.
D'accord.
Et puis, aujourd'hui, ils ont mis un peu d'économie de côté. Ils avaient leur maison. Mmh. Ils ont mis un peu d'économie de côté parce qu'en tant que commerçant, les retraites, hein, c'est peanuts. Ouais. Mmh. C'est peanuts. Hein. Ils ont payé des taxes sur le commerce, leurs impôts en temps et en heure. Et puis aujourd'hui, on me réclame 20%. Parce que sur la maison qui était estimée à 200 000, plus un peu d'économie qu'ils avaient pour leur retraite, qui n'ont pas profité assez, puisqu'ils sont partis, ils ont arrêté à travailler à 65 ans.
Oui.
Hein, parce que, c'était comme ça. Hein. Et maintenant, ils sont partis, et on me réclame donc 20%, je suis dans la tranche à 20%. Moi, je me dis, de quel droit, on vient encore chercher sur l'économie des personnes qui ont travaillé, alors qu'on a tous... Ils ont payé leurs impôts.
C'est ça, ils ont déjà été imposés. C'est un impôt sur de l'argent qui a déjà été imposé, quoi.
Voilà. Si encore il y a eu un oubli ou une fraude, au dernier moment, on récupère. Là, c'est pas le cas. Alors, je suis fils unique, donc j'ai le droit qu'à 100 000. Donc déjà, avec la maison, c'est fait. Hein. Aujourd'hui, on me réclame énormément d'argent pour des droits de succession. Mais de quel droit? Alors, moi, je suis... pour l'enlèvement de ces droits de succession, que ce soit, j'entendais, des petits patrimoines ou des très gros patrimoines. C'est un argent que les familles ont acquis par le travail. Mmh. Et maintenant, mais tant mieux pour celui qui en a beaucoup.
Oui, ça n'en enlève pas.
Non, honnêtement gagné, mais c'est à la marge.
Oui, mais c'est à la marge.
Franck,
moi je comprends
dans votre situation, si vous vouliez garder la maison de vos parents, vous ne pourriez pas parce que vous seriez obligé de la vendre pour payer les droits de succession.
Moi j'ai vécu ça dans ma famille.
Laisse parler Franck.
Est-ce que je peux dire juste.
Oui, laisse parler Franck. Allez-y, Franck.
Vrai ou pas, Franck?
Moi je suis d'accord. J'aurais pu. Moi je travaille depuis l'âge de 20 ans. On a économisé. La chance, entre deux, j'ai eu un divorce, mais j'ai la chance d'avoir ma maison. Donc, j'ai pas besoin d'une autre maison. Je la revends parce que je vais pas me prendre deux maisons. Je vais être taxé parce qu'ils vont me considérer ça comme une résidence secondaire.
Mais oui, mais il a raison.
Excusez-moi, Franck, mais je sais pas qui vous a conseillé.
C'est leur maison familiale.
Je suis dans le même cas que vous, puisque j'ai perdu ma maman il y a assez longtemps, donc la maison que mes parents avaient valait 150 000 euros. Petite maison, ok.
Ouais.
Quand elle est décédée, on a payé les droits de succession à l'époque, mon père avait une donation au dernier vivement. Il est décédé l'année dernière, donc je suis un peu dans le même cas que vous, mon père est décédé récemment. je n'ai payé. Donc la seule partie sur laquelle était la succession s'est opérée, c'était sur la moitié, puisque sur une, là en l'occurrence sur vos 200 000 euros de valeur de maison, ça ne pouvait concerner que la moitié, 100 000.
Mais c'est ce qu'il te dit. Mais il va être taxé à 20% sur cet argent-là.
Donc il ne peut pas être taxé à 20% puisque on est en dessous de 100 000.
Mais il y avait de l'argent en monétaire.
Donc
aussi,
il y a autre chose.
Et bah oui, mais
on ne peut pas dire que la maison à 200 000 est taxée à 20%.
Non, mais arrête, tu chipotes. Ce que te dit Franck, c'est qu'il a pris ses 100 000. Derrière, il lui reste 150 et sur ces 150, on lui prend 20%.
Avec des parents qui ont trimé toute leur vie comme des malades.
Ses parents, ils étaient bouchers charcutiers et en fait, ils ont payé les impôts, ils ont trimé comme des dingues, ils sont partis à la retraite.
Tout a été fiscalisé. Le moindre centime a été fiscalisé déjà.
Je rappelle qu'on ne paye que sur la tranche. Mais supérieur.
Mais arrête de défendre. Franck, par exemple, si vous aviez touché un peu plus et cet argent, vous l'auriez mis en banque ou vous auriez consommé avec?
Ah ben, pour l'instant, je vais les mettre. Je termine les affaires, mais je vais consommer.
Mais bien sûr.
Je vais consommer.
Mais voilà. C'est de l'argent au moins pour les sociétés françaises, évidemment.
Ça va améliorer, malheureusement. Je dis toujours malheureusement parce que je vais passer un vrai temps.
Bien sûr, évidemment.
Je vais améliorer le quotidien.
C'est meilleur pour l'économie française que de renflouer la dette à 3 000 milliards.
Mais avec
vos 30 000 euros, ils vont être contents. Ouais.
Merci en tout cas, Franck. En tout cas, merci de nous avoir appelé au 3216. Je suis totalement d'accord avec Franck.
Pour revenir sur les 20%, ce qui est imposé à 20%, c'est la tranche entre 15 900 euros et 550 000 euros.
Merci.
Donc ça peut quand même représenter une assez grosse somme.
Oui, mais jusqu'à 500 000 euros.
C'est le cas de Franck. Encore une fois, je suis désolé.
C'est
pas un gros héritage qui va toucher Franck.
C'est un revenir, c'est pas une question, parce que on aura toujours plus riche, moins riche, c'est une question de principe. On taxe des choses qui ont déjà été multitaxées tout au long de la vie, c'est une taxe sur la taxe. On peut pas me défendre le même discours quand on fait un débat sur l'essence. La TVA est une taxe sur la TIPP et il faut pas taxer sur les taxes. Alors, et quand on meurt, alors là, il y a pas de problème.
Le législateur y a pensé et aujourd'hui incite à la donation du vivant des possédants par la tranche, je crois, c'est 150 000 euros tous les 10 ans, ou le contraire, 100 000 tous les 15 ans, je sais plus.
Je veux qu'on prenne Fabio, rapidement, Fabio qui nous a appelé au 32-16 d'Ivry, la bataille dans l'heure. Bonjour Fabio.
Très belle ville. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et Fabio, vous voulez intervenir sur ce débat, allez-y.
Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure, et c'est vrai que, nous, avec ma femme, on est propriétaire de notre maison, on a remboursé notre crédit, on a une cinquantaine d'années. On a agrandi notre maison, on l'a valorisée avec une véranda, ça fait un an. Et clairement, je suis entièrement pour la baisse, ou voire même
enlever
les droits de succession. Parce que nous, on se crève le cul pour laisser un bien à nos enfants, pour qu'ils aient quelque chose quand nous, on sera plus là. Et oui, clairement, si ça leur permet d'avoir un bonus et d'avoir, par rapport aux autres qui, par manque de bol ou par manque de vie, pour X raisons, ne peuvent pas avoir des parents qui puissent faire la même chose, je suis très fier de laisser quelque chose à mes enfants et ça m'énerve de savoir que l'État va encore prendre quelque chose là-dessus, alors que nous, on paye des impôts, on paye X taxes par rapport au fait qu'on soit propriétaire et en plus, au moment de notre décès, nos enfants vont devoir payer pour pouvoir, quelque part, obtenir le fruit de ce que nous, on a fait. C'est aberrant.
Vous avez raison de dire qu'on matraque les propriétaires, parce que c'est encore un truc qui tombe sur la tête des propriétaires. Si vous êtes locataire, ça c'est sûr, vous n'allez pas léguer votre maison. Et puis parfois la maison familiale, elle a une importance, sentimentale pour les gens, Thierry. Et quand derrière tu peux pas la garder parce que t'as le droit de succession, ça te fait un petit peu mal au cœur quand même. Martin, vous avez d'autres messages ou pas?
Oui, il y a Yannick qui comprend pas forcément la logique de cette taxation sur les successions. Il dit quand on touche de l'argent, forcément, ça va bénéficier à l'économie générale du pays et qui, en plus, le pays prend de l'argent sur la TVA et toutes les autres taxes. Donc finalement, tout le monde est gagnant, même si on supprime cette taxe sur les successions.
Pas tout le monde est gagnant.
Trop d'impôts, tue l'impôt.
La sagesse des auditeurs de RMC.
On a fait un sondage. Thierry Moreau, on va voir si les gens sont d'accord avec vous. À mon avis, je vous le dis, c'est mort. Et je ne dis pas ça parce qu'on parle de droit de succession. Êtes-vous pour ou contre la baisse des droits de succession? Tiens, mais ça donne quoi, Martin Bourdin?
Légèrement minoritaire, Thierry. Pour à 82%.
Ah, je pensais qu'on ferait mieux. Je suis un peu déçu, mais enfin 82% Thierry. Là,
c'est pour ça que le gouvernement fait une erreur de freiner des cas de fer sur cette mesure qu'il avait promise pendant la campagne électorale. Ça va leur coûter aussi cher que la demi-part sur les veuves de François Hollande sur le même sujet.
Après, je suis d'accord avec Jérôme, c'est dans le programme, ça doit être fait parce que ça a été promis au moment de
l'élection. Ou alors, faut pas faire l'exprès puisque c'était dans le programme et ils veulent le faire.
Je veux dire, ça fera plus plaisir aux Français l'abaissement des droits de succession que la retraite à 65 ans.
C'est sûr.
Voilà. Donc, à un moment, il faut aussi faire plaisir aux Français, Thierry, c'est comme ça.
Il faut respecter les promesses.
C'est ça la politique.
La politique doit tenir ses promesses.
Et bien alors qu'il fasse les deux. Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h31 sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. Et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter tous ces meilleurs moments avec Martin Bourdin, Perico Légas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. On va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Existe-t-il en France un racisme anti-blanc ? Mercredi dernier, un élu de la mairie des Mureaux a démissionné en dénonçant le repli communautaire de sa ville. Il affirme avoir subi du racisme anti-blanc et des agressions homophobes. Cela n'étonne pas Jean-Christophe, pour qui le racisme anti-blanc a toujours existé en France. Écoutez.
Malheureusement, je suis assez content que ça soit quelqu'un de gauche qui dénonce ça, quoi. C'est quelque chose qui existe depuis quand même des années, le racisme anti-blanc. C'est que si c'était un élu RN qui avait dit ça, ça aurait été un tollé général, sûrement ce matin, un peu partout, sur Twitter, avec tous les politiques qui vont sur Twitter.
Oui.
Que là, le fait que ce soit un élu de gauche qui le dise, je trouve que ça fait peut-être sauter un plafond de verre qui avait peut-être à ce moment-là on va dire, cacher un peu ce qui était une réalité, quoi.
Il était temps, c'est ce que vous dites.
Lève le tapis où était la poussière dessous.
Le racisme, il n'est pas l'apanage des blancs, quoi. Malheureusement, quoi. Si c'était une seule catégorie qui était raciste, ça serait des fois plus pratique pour les problèmes, mais malheureusement, il y a du racisme dans toutes les communautés, quoi.
Est-ce qu'il existe un racisme anti-blanc en France, Perico Légas?
Alors, je ne dirais pas comme ça. Le racisme, oui, c'est considérer que l'autre est inférieur. Il y a une détestation, il y a une haine anti-blanc qui est cultivée justement par des communautés qui en font un fonds de commerce et d'autres personnes qui considèrent que les blancs ayant exploité.
Mais c'est pas du racisme.
Le racisme, c'est vraiment considéré que c'est, et là, c'est au contraire. C'est vous croyez supérieur, vous ne l'êtes pas, et on va vous faire la peau. Voilà. Et par conséquent, dès lors que vous êtes blanc, vous êtes supposé être un pseudo-colonial ou un descendant de colonial, vous êtes donc un danger pour moi. C'est eux d'ailleurs qui sont en train de dire, vous êtes quelque part un danger pour ma race, voyez. Et donc je vais vous combattre et je vais vous détruire. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça prend des proportions, j'allais dire, systématiques dans certains territoires. Il y a, entre adolescents, c'est systématique, t'es blanc. D'ailleurs, on dit en général chrétien blanc. Voilà. Et il y a une détestation, c'est la porte de la guerre civile. Tout le monde en est conscient, tout le monde le combat, mais vous avez quand même certaines communautés et certains imams qui l'entretiennent. Voilà. Donc ça pose un problème.
Ça vous étonne, vous, cette haine envers cet élu des Mureaux, Jérôme Lavrieux, vous qui avez été élu?
Non, ça ne m'étonne pas. C'est aussi le fruit d'un jeu trouble communautariste de certains élus. On a eu un maire qui a eu une polémique la semaine dernière, qui était en photo avec non pas un drapeau bleu-blanc-rouge, mais un drapeau palestinien derrière son bureau, ce qui pose un vrai problème. Oui. Moi, je pense que c'est un dévoiement de la démocratie. En fait, dans certains endroits, on considère puisque ceux qui sont majoritaires considèrent que la minorité ne compte pas. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est que la majorité doit prendre en compte la minorité. C'est ça, la démocratie. Et dans des endroits où alors vous avez que des blancs et ce sont les gens de couleur qui sont minoritaires, leur voix ne compte pas. C'est pas bien.
Il y a des gens où
il n'y a que des personnes qui sont dites d'origine étrangère qui sont majoritaires et on dit la voix du petit blanc. Rappelez-vous la phrase qui avait choqué tout le monde à l'époque de Manuel Valls quand il avait dit, surpris par une caméra, il y a
ça
pas assez
de blanc.
Il faut rajouter du white. C'était dans une ville de banlieue. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait de la mixité de niveau de vie.
Tu sais qu'il y a des territoires dont on
fait le débat qu'on a fait tout à l'heure, et la mixité d'origine, etc.
Qu'il faut
aller dans ce truc. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que tous ceux qui sont prompts à s'élever contre toute forme d'injustice, c'est dans une mairie de gauche, c'est un élu socialiste qui dit ça, et ses camarades ont été totalement inexistants pour le défendre dans sa position en disant non, tu vas rester. On va assurer ta protection, on va te défendre, et on va aller expliquer pourquoi. Mais il faut que tu restes, parce que si tu t'en vas, c'est une perte de richesse pour notre conseil municipal. Bah, je l'aurais pas entendu.
Ah bah non, on n'a rien entendu.
Parce que ce débat-là a été déserté par la gauche.
Ah bah,
bien sûr. Très clairement.
Absolument.
Et ça, c'est un des problèmes. J'aime assez la
stupidité. Et elle l'a laissé à l'extrême droite.
Absolument. Et ça, c'est un drame. Je suis assez fan de la subtilité avec laquelle Perico a décrit cette situation.
Je
rajouterais quand même que cet élu a aussi été victime d'homophobie,
oui.
Et que donc dans l'ensemble des menaces de mort qu'il a eues, il a eu parce qu'il était blanc, parce qu'il était homo, oui. Parce qu'il était de gauche peut-être, en tout cas il en a pris plein la figure. Après, globalement, les problèmes de racisme en France, comme disait Audiard, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Bah, c'est un peu la même chose pour le racisme. Il y a aussi, il y a aujourd'hui plus de gens aujourd'hui qui sont victimes d'un racisme à cause de la couleur de leur peau que de gens qui sont victimes de racisme au qui blanc. Évidemment. Mais ça existe. Mais ça existe.
Et ça ne rend pas celui-là plus tolérable que les autres.
Complètement. Dans des territoires où.
Mais je suis complètement. Et il y a aussi des endroits où
l'anti-blanc
est dominant. Je suis d'accord. Je parle de la globalité.
Les GG ce matin et cette question existentielle. Faut-il fournir des polaires aux écoliers? Une commune de Normandie a débloqué 5000 euros pour acheter des polaires aux 350 élèves de maternelle et de primaire, ceci afin de passer l'hiver au chaud dans les classes, étant donné que le chauffage va être au minimum. Une décision ridicule pour faire le buzz, selon l'agriculteur des GG, Didier Giroux.
Je trouve que c'est encore une fois du buzz, de la pub autour de ce problème du chauffage. L'an dernier, les élèves, ils étaient pas en t-shirt dans des classes chauffées à 27 degrés, quoi. Donc, on veut exister à travers cette pénurie d'énergie et l'augmentation du coût de l'énergie et faire de ça une tête de gondole où tout le monde s'engouffre. Moi, ça m'aspire au récit de mon grand-père qui m'expliquait que quand il partait à l'école dans l'entre-deux-guerres, il partait avec sa gamelle sous le bras et ils emmenaient une bûche de bois sous l'autre bras parce qu'il fallait qu'à l'école ils emmènent chacun leur part de bois pour mettre dans le poêle de l'école, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est revenu à ce temps-là? Je crois pas. Voilà, je trouve cette histoire un peu ridicule.
Thierry Moreau, est-ce que c'est ridicule de fournir des polaires aux écoliers?
Alors, pas du tout. C'est ce qu'il vient de dire qui est ridicule pour deux raisons. D'abord, le maire ne fait
pas une combinaison de ski.
Est-ce que je peux argumenter? Il ne fait pas de buzz sur la polémique énergétique puisqu'il a commandé ses doudounes au mois de mai pour une raison toute simple.
C'est moins cher.
Le mois de mai. Pas du tout. Le mois de mai avait été très froid. Il avait dû augmenter le chauffage. Et donc, il a décidé de mettre des doudounes. Premier point. Deuxième point, il baisse de 20 à 19 le chauffage. Donc, il baisse d'un degré.
Oui.
Mais il pense que les élèves qui sont assis, et vous savez, quand on est assis dans une pièce, si elle est chauffée à 19 degrés, on finit par avoir froid. Mmh. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Troisième chose, il a acheté des doudounes à 14 euros qui sont fabriquées en France. Je trouve ça très bien.
14 euros fabriqués en France, bah, faudra qu'il me dise
C'est ce qu'a dit le maire. Alors, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'a dit le maire. Fabriqués en France, commandés au mois de mai, donc il ne se fait pas du buzz sur la crise énergétique actuelle.
Mais bien sûr, excuse-moi, enfin, qui a sorti qu'il y avait des écoliers qui avaient une polaire? C'est le maire, il est tout content quand même d'en parler.
Et puis, dernière chose, il a une. Alors, ça concerne que la maternelle et qui ne bénéficie pas, je vous rappelle, les maternelles ne bénéficient pas de la prime de rentrée. Donc, c'est pour aider aussi. Il explique aussi que dans sa municipalité, il y avait une majorité de gens qui avaient des faibles revenus, donc c'était pour les aider. Et dernière chose, il est dans une maternelle qui a été construite en 2000, où il y a des grandes baies vitrées, et donc c'est très compliqué à chauffer. Donc s'il fait tout ça, je trouve ça très bien. C'est un élu qui protège.
Mais il fournira des t-shirts l'été.
C'est un élu qui protège ses administrés. Et contrairement à ce que dit notre ami agriculteur, il chauffait pas à 27 l'année dernière, il chauffait à 20. Voilà.
Moi, je pense que c'est assez anecdotique. Mais ça a le mérite de mettre le point sur quelque chose qui va nous occuper tout cet hiver. Vous avez des centaines et des centaines de communes dont les contrats de fourniture d'énergie arrivent à terme entre maintenant et mars.
Oui.
Et donc, le prix de renégociation de leurs contrats vont passer multiplié par 30, d'accord, 35, 36. J'ai vu l'appel du maire de Neuilly-sur-Marne sur Internet, Zaros Bakhtiari, qui dit qu'on n'aura plus les moyens de chauffer les écoles si le gouvernement ne nous aide pas et si on est le prix du marché libre. Et donc là, on risque, et je rappelle que c'est pas, les polaires, c'est pas plus ridicule que les présidents d'université qui ont annoncé qu'on passerait en distanciel hiver pour faire des économies de chauffage.
Oui,
on n'est pas dans un pays, du tiers-monde. Oui. Donc il va falloir trouver une solution pour les collectivités
publiques.
Oui, très bien, mais super. Voilà, le réchauffement climatique est sauvé. Et puis Bruno Le Maire. C'est anecdotique. Ce sont des éléments. Je le sais et je le dis que le problème des mesures fortes et des symboles qui produiront leurs effets dans 10 ans ou dans 15 ans, elles résisteront pas à l'hiver parce qu'on va avoir un gros problème. Des collectivités ne peuvent plus.
C'est pas les polaires qui nous sauveront.
Et l'État
va
intervenir.
Mais si on fait pas ça, on n'en parle pas.
L'État va
intervenir. Et vous allez voir que ça va être un sujet quand les mairies vont tomber les unes après les autres, parce qu'elles pourront plus chauffer les écoles, plus chauffer les piscines, plus rien faire. Vous verrez que ça va être un gros problème.
C'est
je pense qu'on l'anticipe pas assez.
Mais ça va venir vite.
Mais on n'en est pas encore là.
On est le 2 ou 3 octobre.
Oui, attendons de voir déjà l'hiver, s'il va se passer cet hiver.
Anticipons.
Gouverner, c'est prévoir. Peut-être que ce sera un hiver sibérien et peut-être pas.
Anticipons.
Gouverner, c'est prévoir.
Quand j'étais gamin. Il y avait un poêle à bois au milieu de la classe et chaque jour, il y avait un élève qui était chargé de l'alimenter avec le bois ou le charbon. C'était mieux avant.
Oui.
C'est tout ce que vous avez à dire, mais
c'est déjà pas mal parce que je veux dire, c'est profond.
D'accord. Mais, non, mais les polaires, vous êtes pour ou vous êtes contre?
Comment?
Vous foutez. Les polaires, vous êtes pour ou contre?
Si c'est la solution du moment, mais c'est terrifiant, quoi.
Oui, merci.
C'est terrifiant.
Oui.
Et puis, enfin bon, j'arrête là.
Oui, arrêtez là. Le face-à-face RMC ce matin, faut-il aider l'Ukraine? Quel qu'en soit le prix, le débat va s'ouvrir aujourd'hui pour la reprise des séances au Parlement. Et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a expliqué ce matin à Apolline pourquoi elle a souhaité inaugurer la séance avec l'Ukraine.
Rappeler à nos opinions publiques, donc à vos auditeurs, que le soutien à l'Ukraine est la seule voie possible. Aujourd'hui, ce sont nos valeurs qui sont en jeu, c'est la démocratie, c'est l'Europe. Et donc, même si, effectivement, nous allons en subir les conséquences de la guerre, à travers nos factures d'énergie, à travers notre vie quotidienne, on voit que les prix peuvent monter, ce soutien est indiscutable et nous devons le maintenir.
Perico, les gars, est-ce qu'il faut aider l'Ukraine, quel qu'en soit le prix?
Oui, en l'aidant à sortir du marasme socio-économique dans lequel elle est au niveau politique. C'est le pays le plus corrompu d'Europe. Donc, face à la barbarie russe, il faut l'Ukraine. L'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus corrompu, où les mafias sont les plus prégnantes dans l'organisation.
Depuis la guerre ou depuis avant, là?
Depuis toujours.
Pas loin de la Turquie, quand même.
Depuis que l'Empire soviétique... C'est une résurgence d'Empire soviétique. Depuis que les oligarques...
Qui rêvent de venir...
On a zigouillé Gorbatchev et l'URSS qui voulait se réformer. Bon, on a eu tort. Il fallait laisser Gorbatchev aller jusqu'au bout de son processus. Les Occidentaux se sont dit, on va se débarrasser. On installe Eltsine. Eltsine installe les oligarques. Poutine, c'est notre bébé, c'est nous qui l'avons mis en place. On a mis le système. L'Ukraine n'échappait pas à cette logique. Ce sont des oligarques corrompus, et en Ukraine, parce que justement, il n'y a pas de pouvoir central fort, il y a eu une évolution du régime, la corruption en Ukraine est la plus forte
d'Europe. Vous faites quoi?
Je le tiens d'Ukrainien. Donc, on l'aide.
Et moi, mon voisin,
je le tiens de responsable politique. Voilà, on n'a pas le temps de débattre ici.
Oui, non.
Je vous dis, et c'est là où on nous a tous menti, l'Ukraine est loin d'être un paradis.
Bah, donc, on les aide pas alors.
Je viens de vous dire qu'il faut les aider à condition
que. Vous dites, alors.
Si on les aide, mais on fait en sorte que ça soit. On donne pas d'argent
On est bien d'accord.
On fait comme pour la Roumanie.
C'est pour ça que pour l'Union européenne, il y a la conditionnalité des aides.
Voilà.
Et que dans son cheminement qui sera long pour son adhésion pleine et entière à l'Union européenne, il y a notamment un système de droit et de lutte anti-corruption. Et tant que ce sera pas fait, ils pourront pas adhérer. En attendant, on les laisse pas se faire massacrer et on les laisse pas crever de faim.
Ça y est, on l'a fait, ça.
C'est un pays, certes,
corrompu.
Mais moi, il y a quelque chose qui m'épate. Même quand il y a les bombardements, les pompiers sortent, les ordures ménagères sont ramassées, les villes sont entretenues à chaque fois qu'elles sont libérées, et ça montre qu'il y a aussi des gens qui font leur travail, et grâce aussi à notre aide.
Mais il a raison, c'est pour ça aussi que la Turquie rentrera jamais dans l'Europe, parce qu'elle est aussi à peu près aussi corrompue que l'Ukraine. Et puis en plus, c'est bien qu'elle rappelle ce message, parce que comme on va morfler sur le plan économique, il faut expliquer pourquoi on aide à l'Ukraine, et c'est bien d'instiller ça et de répéter ça. Ça va nous coûter cher, mais c'est nécessaire.
Ça n'a jamais été dit, voilà, c'était juste.
Dernier extrait dans ce zapping, le super Moscato Show, c'était vendredi. La coupe mulet va-t-elle revenir à la mode? Cette superbe coupe de cheveux très en vogue dans les années 80 pourrait bien revenir en force, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, grâce à l'équipe du Moscato Show, écoutez.
Alors vous devrez faire un concours de coupe mulet dans le Moscato Show. Non, mais avec des perruques, pour voir qui c'est le plus joli.
Et moi, j'aime bien, moi, une coupe mulet.
Ah non, si on le fait, on le fait pour de vrai.
Ouais. Comment ça, pour de vrai?
On ne pas jouer.
Allez, on le fait. Dis-moi, on sera mort qu'il y en a un qui n'arrivera pas à l'avoir, la coupe mulet.
Vincent, ça va être extraordinaire.
Il a vu,
il a des cheveux derrière.
Il a vu.
On laisse tous pousser.
Allez,
jusqu'à la fin 2023.
Par contre, si on y met du pour vous, ça va devenir noir. Remarque, c'est
l'été. Non, mais les gars, pour arriver à avoir une coupe mulet, il faut 3 ans. Là, au moins pour nous, là.
Non, après, tu laisses un peu pousser avec un bon coiffeur, tu fais un mulet.
Ouais, quoi. Tu sais ce que tu fais? Non, tu rallonges des.
Ça serait affreux.
Tu rallonges des rallonges, quoi. Tu sais, des
rajouts.
Des rajouts. Des rajouts. Tu fais ça?
Ouais.
Je veux mettre des rajouts.
Pas de triche. Chacun fait son mulet.
Ouais. Mulet bio.
Vincent, il pourrait faire la coupe à Tangpo. Tu sais, il a juste le petit truc derrière, la petite queue derrière.
Il y a des Perico, les gars, ça vous irait bien la coupe mulet?
Je préfère la coupe mulet que la coupe Kevin. Vous vous souvenez de Kevin Costner avec comment ça s'appelle, vous savez, quand il
est recruté?
La coupe où ils ont rasé devant, puis l'espèce de mèche qui
coupe. Oui, ça s'appelle la coupe mulet,
c'est ça. La coupe mulet, hein.
Oui, c'est voilà. Ça, la coupe.
Ah non, je pensais que vous pensiez de la coupe en brosse.
Non, c'est ça, la coupe.
Ah, mais je n'y connaissais rien. Moi j'aime la coupe Katnins.
C'est une très bonne intervention.
Moi, j'aime la coupe Katnins. Voilà, très bien.
Cette radio est géniale parce qu'on peut parler de l'Ukraine et ensuite de passer à la coupe Mulet. C'est ça qui était assez génial.
Et surtout, on peut aussi ne pas connaître la coupe Mulet. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Ah, c'est ça, la coupe Mulet.
Non, c'est comme la coupe Mulet. Et vouloir intervenir sur le sujet. Donc, ça, c'est énorme.
Jacob.
Oui, non, mais Christian Jacob avait l'air d'avoir eu la coupe Mulet à l'Assemblée nationale.
Ça devrait être interdit.
C'est un problème de coupe de cheveux, c'est autre chose. Dans un instant, on aura Stéphane Pedrazzi, la minute conso. Stéphane Pedrazzi va nous parler d'argent de poche. Combien on doit donner à nos enfants et surtout, est-ce qu'on doit donner ? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story. Et c'est le moment d'accueillir Stéphane Pedrazzi. On va parler conso et argent de poche.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et oui, le fameux argent de poche, le fameux débat sur l'argent de poche, Stéphane Pedrazzi. 92% des enfants et des ados reçoivent de l'argent de poche en France.
Et 42% de manière régulière. La moyenne, c'est 30€ par mois, avec évidemment des écarts en fonction de l'âge des enfants. Oui. Ça va de 18€ par mois pour les 10-12 ans et ça grimpe jusqu'à 44€ en moyenne pour les 17-18 ans. Est-ce que vous savez à quel âge est-ce qu'il est recommandé de donner de l'argent de poche aux enfants?
6 ans, 7 ans,
ouais. 2 ans, 3 ans.
En dessous de 6 ans, les enfants n'ont pas la notion de l'argent, c'est donc déconseillé. 6 ans, ça reste néanmoins très minoritaire. En règle générale, l'argent de poche devient automatique ou en tout cas régulier à partir de 11 ans lors de l'entrée au collège. C'est lorsque les enfants commencent à être un petit peu plus indépendants.
Et est-ce que c'est le moment où on doit leur apprendre à comment gérer l'argent, en fait?
Alors ça,
c'est des petits cours d'éco.
Ouais, c'est ce que conseillent les spécialistes en gestion financière. Concrètement, ça veut dire verser un peu plus d'argent à l'âge de 12 ans lorsque les ados deviennent un peu indépendants. Et à partir de 15 ans, le conseil des spécialistes, c'est de leur confier la gestion d'un mini-budget. C'est-à-dire pas uniquement
pas lire, en tout cas.
De l'argent pour les loisirs, les sorties, mais aussi peut-être un peu plus d'argent pour acheter leurs vêtements, certaines fournitures scolaires, peut-être l'abonnement au téléphone portable. L'avantage de ce système, c'est d'apprendre aux enfants à faire des choix. C'est-à-dire que s'ils veulent s'acheter des vêtements de marque, eh bien ils vont devoir réduire d'autres dépenses. Mmh. S'ils veulent changer de téléphone portable, ils vont devoir faire des économies et peut-être se mettre à travailler, Estelle, des petits boulots pour connecter la valeur de l'argent et ce que ça veut dire en termes de travail.
Ça, c'est bien s'ils ramassent les feuilles ou s'ils lavent la voiture, ça, on peut leur donner de l'argent.
Oui, mais ça, c'est à la famille. Ça s'appelle un emploi fictif, non ?
Bah, pas du tout, puisque c'est un vrai emploi.
Non, c'est un emploi non déclaré.
C'est un emploi non déclaré.
Ça va, bon.
En tout cas, le message vraiment, c'est que l'argent de poche, c'est pas anodin et ça permet aux enfants d'apprendre les bases de la gestion financière. Et si on interroge les parents, 80% considèrent que le versement d'une somme d'argent régulière a une vertu pédagogique.
Comment est-ce qu'on contrôle la manière dont les enfants dépensent leur argent de poche?
Alors ça, c'est une très bonne idée pour éviter que les enfants fassent n'importe quoi, pour leur donner des conseils et surtout pour éviter qu'ils soient victimes de raquettes, qu'ils n'achètent pas des cigarettes, des stupéfiants, ça peut arriver. Avant, on s'asseyait autour d'une table et on en parlait avec plus ou moins des chances de succès. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des applications. Elles s'appellent PixPay, Card avec un K, Xalis avec deux A. Ce ne sont pas vraiment des banques en ligne parce qu'elles n'ont pas de licence bancaire. C'est ce qu'on appelle des fintech, contraction de finance et technologie. Elles proposent des services de base, c'est-à-dire un compte, une carte. Et pour les parents, une application, un autre volet de l'application qui permet aux parents de fixer un plafond de paiement.
C'est pas de l'argent de poche alors.
D'interdire certaines dépenses avec la carte. Par exemple, pas d'achat d'alcool en ligne. Pas d'achat de jeux en ligne. Débloquer, tu rigoles, mais ça arrive. Débloquer les paiements sur certains sites, notamment les sites de jeux, et bien sûr, de recevoir des alertes et de surveiller le solde du compte des enfants.
Nos parents ne contrôlaient pas notre argent de poche. Oui,
et puis le gamin, il retire du cash, il s'achète son paquet de clopes.
Hein. Bah, oui.
Oui, mais les parents voient qu'il y a des retraits conséquents régulièrement.
Mais normalement, tu files de l'argent de poche pour que l'enfant ait une liberté, c'est pas pour aller contrôler ce qu'il fait.
C'est le contrôle parental. Quand tu donnes accès à Internet à tes enfants, mais tu surveilles.
Bah, tu contrôles tout, alors. Il n'y a pas quand même quelques bémols à l'argent de poche?
Alors, il y en a un, effectivement, c'est l'excès de contrôle, tu viens de le dire.
Bah oui, ça va pas.
Le deuxième, c'est que c'est pas complètement gratuit. Généralement, ces applications coûtent quelques euros par mois. Il y a une version de base gratuite, mais très vite, il faut payer 3€ par mois. C'est la moyenne. Ensuite, attention aux dépenses inutiles. Ces applications, elles favorisent ce qu'on appelle les micro-paiements, qui sont pas toujours très judicieux. Par exemple, si tu achètes des stickers sur un site,
Mais est-ce qu'il faut que l'argent de poche soit judicieux? L'argent de poche, ça sert
si
à acheter n'importe quoi, donc acheter des bonbons, avant, c'est pas judicieux.
Dépense tous les mois plusieurs euros, voire des dizaines d'euros pour acheter des stickers.
Si c'est son argent de poche,
ça fait plaisir.
C'est son argent de poche.
En tout cas, c'est ce que disent les spécialistes.
Ils ont tort.
Et attention aussi au partenariat, tu vas encore me dire que c'est une bonne idée. Attention au partenariat, puisque des banques en ligne, enfin c'est fintech, pour s'assurer de la rentabilité de leurs produits, proposent des partenariats avec des réductions. Donc pour les enfants, ça paraît être un bon plan.
Ils ont une réduction sur des marques qu'ils adorent. Mais en réalité, eux, ils ont une commission. Quand c'est gratuit ou presque gratuit, c'est ce qu'on dit. C'est toi le produit.
Moralité, il faut leur donner de l'argent liquide et c'est quand même bien mieux quand ils font ce qu'ils veulent avec. C'est quand même leur argent de poche.
En tout cas, ça marche beaucoup aux États-Unis, ces applications, notamment quand c'est lancé par des célébrités. Step, qui avait été lancé par Justin Timberlake et l'influenceuse Charli D'Amelio, a franchi la barre du million d'utilisateurs en seulement quelques mois.
C'est un danger.
Avec un énorme succès.
Ça peut être récupéré.
Mais tout ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais voilà. Et sachez que les banques françaises, les néobanques, commencent à s'y mettre. Ma French Bank,
quelle bonne nouvelle.
Voilà.
Merci Stéphane Pedrazzi. Tiens, petite question. Vous faites chambre à part ou pas, vous ?
Ah bah non, pourquoi ?
Bah parce que 10% des Français le font.
Mais quelle horreur.
Bah écoutez, je ne sais pas si c'est une horreur, mais 10% des Français le font.
Après, il y a un truc qui est vrai aussi, c'est qu'au début, on dort l'un contre l'autre, et puis rapidement, on se rend compte qu'on dort quand c'est même ça. Mieux.
Au départ, t'as un 140, et rapidement, le 180 s'impose. tu as raison, Stéphane. Allez, dans un instant, on se posera cette question. Est-ce que faire chambre à part, c'est la bonne solution pour être heureux à deux ? Racontez-nous, tiens, comment ça se passe chez vous. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.